RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet.
Citoyennes, citoyens, je vous suggère tout de suite d'écouter des témoignages. Par exemple, celui de Baptiste, il est en Île-de-France. Il est le père d'une jeune fille qui s'appelle Léa, oui, Léa. Et à 17 ans, Léa, l'année dernière, est partie en Syrie. Écoutez les mots de son papa.
Le départ de Léa, c'est passé une belle journée. Elle a pris un sac à dos, une écharpe. Et depuis ce jour-là, Léa a disparu. On n'a rien vu. On n'a rien compris. C'est elle qui nous a appelés, qui nous a dit « Papa, maman, je vais vous faire du mal. » Et je suis parti. Je suis parti en Syrie pour faire le djihad. Et là, vous avez toute la terre qui vous tombe dessus. Léa a eu un enfant. Elle a construit sa vie dans un monde en guerre. Quelque part, elle a voulu trouver un monde meilleur. Mais je pense qu'elle a trouvé l'enfer. On nous a volé notre enfant. Léa, qui est partie, cette personne joviale, joyeuse, pour nous, est morte.
Écoutez également Véronique de Sevran, en Île-de-France, la maman de Quentin, 22 ans, qui est partie en Syrie en novembre 2015.
Notre fils vivait dans un univers plutôt privilégié. Il aimait la musique, il aimait le sport. Et c'est ça aussi qui est dur, c'est-à-dire qu'on passe un week-end magnifique, on fait des crêpes, c'est la fête, il y a la famille, son frère, on fait plein d'activités. Et puis le lendemain matin, il part en Allemagne. Et puis de l'Allemagne, il ne revient pas. Et on a su qu'un mois après où il était. Et il est en Syrie. On ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas le ramener. C'est horrible parce que moi, je voudrais le prendre dans mes bras. Je ne peux plus. C'est très difficile de raconter ce qu'on vit. Parce que c'est mal vu, c'est mal compris. Il y a beaucoup d'amalgame. Il ne faut pas rester seul parce que c'est, le pire, c'est de ne pas parler. On a besoin d'aide parce que c'est douloureux.
Quentin, d'ailleurs, le fils de Véronique, qui entre-temps est décédé. Véronique sera avec nous, d'ailleurs, dans cette émission. Voilà. Camille, je me tourne vers toi, parce que j'attends beaucoup, moi, de cette consultation aujourd'hui, de notre petit sondage maison, le Brunet-Métrie, parce que, encore une fois, on est incapable de, on n'a jamais mesuré le niveau d'angoisse des parents en France, parce qu'on n'a jamais demandé aux gens, comme ça, comme, publiquement, à travers un sondage, avez-vous peur, redoutez-vous qu'un de vos proches, qu'un de vos enfants aille faire le djihad en Syrie? Je ne sais pas si 2% des Français ont peur de cela, ou 40%, je n'en ai aucune idée, Camille.
Eh bien, pour l'instant, vous qui votez, vous êtes tout de même 15% à avoir peur qu'un de vos enfants, qu'un de vos proches se radicalise et parte faire le djihad en Syrie. Éric, toi, tu dis non pour l'instant, mais et vous? Votez sur rmc.fr, s'il vous plaît, votez oui ou non à cette question. Oui. Redoutez-vous qu'un de vos enfants, de vos proches, parte faire le djihad en Syrie?
Oui, moi, j'ai des enfants qui vont entrer dans l'adolescence. Je suis peut-être naïf, mais aujourd'hui, c'est une angoisse que je n'ai pas. J'ai peut-être tort, hein, mais c'est une angoisse que je n'ai pas. J'en ai d'autres, bien sûr. Dans un instant, nous serons avec Véronique Roy, avec Valérie de Bois-Rollin, qui sont des maman concernée par le sujet. J'ai également l'appel spontané de Damine qui m'appelle du Nord, il a 20 ans. Sa sœur de 21 ans est partie en Syrie, me dit-il. Eh bien, il sera avec nous dans un petit instant. Et vous, mesdames, messieurs, vous pouvez m'appeler vous aussi au 3216 pour réagir et nous faire part de vos craintes, ou pas d'ailleurs, sur ce sujet.
RMC, Carrément Brunet. RMC, Carrément Brunet.
Sur cette photo, elle a 18 ans. Coquette, débardeur et mini-jupe sous le soleil des vacances. 2 ans plus tard, la même jeune fille, intégralement voilée, exilée dans l'un des fiefs de Daesh.
Elle s'est convertie la deuxième année de prépa. Tous les jeudis, elle allait dans une mosquée et bien sûr, elle a rencontré des personnes qui étaient dans une mouvance radicale.
Depuis un an, elle est en Syrie avec son bébé et son mari.
Ce qui a importé pour elle, c'est la vie sur Terre n'est pas importante, elle est éphémère. Tout ce qui compte, c'est ce qu'on veut. C'est après, hein, l'au-delà.
Éric Brunet.
Mesdames, messieurs, redoutez-vous qu'un de vos enfants, qu'un de vos proches parte un jour faire le djihad en Syrie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble lointain, une hypothèse pour les documentaires à la télévision? Ou pensez-vous au contraire que vous pourriez être affecté par cela, touché par cette tragédie, concrètement, dans les mois qui viennent, par exemple? J'accueille tout de suite Valérie de Bois-Rollin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maman de Léa, on a entendu oui. D'ailleurs la voix du papa de Léa tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Baptiste. C'est une jeune fille de 16 ans, Léa, qui est partie en Syrie en 2013. La première question, qui est la question que tout le monde a envie de poser, c'est est-ce que vous avez vu le truc venir? Est-ce que vous avez eu des signaux?
Non, non, non. Moi, j'ai juste vu peut-être 2 jours avant son départ un petit changement au niveau vestimentaire. Voilà, se maquiller plus ou quoi que ce soit. Donc, du coup, moi, j'ai posé la question à Léa et je lui ai dit, bah, écoute, tu te maquilles plus, tu t'épiles plus. Elle fait, non, non, non. Elle me dit, je vais laisser, voilà, comment dire, ma peau respirer. Et encore, elle se maquillait pas beaucoup, hein. Et je lui ai dit, mais tu vas bien, c'est sûr. Elle m'a dit, j'ai jamais été aussi bien. Bon, j'ai OK, hein. Donc elle me dit, je la crois. Et le mardi, la veille de son départ, donc le 4 juin 2013, donc elle était remplie d'amour pour moi. Bon, pareil, elle faisait des câlins à son papa, mais moi, voilà, elle débordait d'amour. Même pendant un moment, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, Léa? Je sais que tu m'aimes, ou nous aimons. Et elle me dit, oui, mais maman, faut que je te dise, je t'aime, je t'aime. Et le lendemain, elle est partie pour plus que je revoie ma fille. Donc voilà, elle est partie avec un garçon. Et puis donc voilà, ça fait 3 ans que notre fille est partie de la maison.
Un garçon que vous connaissiez, qu'elle fréquentait
qu'elle a voulu me présenter, que j'ai voulu aussi connaître, que son papa a voulu le connaître aussi. Donc nous lui avons demandé d'arrêter cette fréquentation parce que bon voilà, ce garçon, il y a des choses qui ne nous convenaient pas. Bon, elle avait que 16 ans en plus. Bon, lui était beaucoup plus vieux que notre fille. Bon, en plus, bon voilà, Léa, elle vient voilà d'un milieu social, je dirais français moyen, nous travaillons tous les deux, mon mari et moi, on est fonctionnaires depuis très très longtemps, elle a des grands frères, elle a toujours été en école privée, donc frère aussi de la même façon, elle habite dans une zone pavillonnaire, en plus elle a sa grand-mère qui habite avec nous à la maison, donc, voilà, c'est pas une enfant qui était complètement lâchée ou quoi que ce soit, absolument pas, c'est ça que je veux vraiment le dire, être précise par rapport à ça, notre fille était très bien entourée, bon, mais voilà, il y a un moment, ma maman est décédée en 2012, et ma maman s'occupait beaucoup donc de mon fils, il s'est beaucoup occupé de Léa aussi. Et donc, elle a 14 ans, elle a été confrontée pour la première fois à la mort de quelqu'un qu'elle aimait énormément. Et ouais. De là, j'ai vu effectivement un changement chez ma fille, des angoisses. Elle a commencé à me dire, mais tu vas mourir, papa va mourir, mais voilà, mais genre, mais qu'est-ce que je vais faire, maman? Mais qu'est-ce que je vais faire sans vous? Est-ce que c'est ça qui a fait que je... Peut-être, c'est bien possible. Voilà.
Et donc, est-ce que le garçon qu'elle fréquente et que vous ne souhaitiez pas la voir continuer à fréquenter, est-ce que c'était parce que vous aviez senti qu'il était enclin à aller vers le radicalisme, voire le djihad? C'est pour cette raison que vous vouliez arrêter la relation de votre fille ou pour d'autres raisons
Non, alors voilà, moi c'était plus ou moins pour ces raisons-là, sauf que moi je pouvais pas mettre de mots parce qu'en 2013, on n'en parlait pas. On ne parlait de rien parce qu'il y avait effectivement voilà des rebelles, des choses qui se passaient en Syrie, mais c'était par rapport à Bachar el-Assad. On nous a jamais dit qu'il y avait des jeunes déjà avant 2013 qui étaient partis rejoindre en partie en Syrie, en Irak, tout ça. Oui. Donc moi, c'est vrai que ce garçon ne m'a pas plu pour la bonne et simple raison, c'est parce que bon voilà, déjà il me serre pas la main, il me regarde pas dans les yeux, il a un petit sourire ironique et tout. Et je dis mais c'est quoi ce garçon, je sais pas moi. Mon époque, on essayait, comme je le dis assez souvent, on essayait de mettre la maman dans la poche pour avoir quand même la fille. Lui, pour le coup, c'était pas du tout ça. Mmh. Et donc, c'est ma fille qui a fallu lui dire, bah, écoute, vas-y, tire la main à ma mère quand même, parce que ça va pas y aller. Donc, je lui ai posé des questions. Un jeune qui a fait des études, un niveau d'études, qui parlait très très bien ou quoi que ce soit, mais il y avait des choses qui me dérangeaient. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai jamais été capable de pouvoir dire quoi. Ouais. Et puis ma fille, quand je lui ai dit, j'ai dit, faut que t'arrêtes avec ce garçon. Et elle m'a dit, ouais, mais pourquoi? J'ai dit, parce que ce garçon, il va te faire changer de prénom, il va te faire changer de vêtements, de façon de vivre, et ça, je ne le souhaite pas pour toi. Mmh. Et puis voilà, et puis après, en fin de compte, voilà ce qui est arrivé. Notre enfant, effectivement, on a su après coup, quand elle est partie, qu'elle était convertie, s'était mariée, qu'il y a un imam, je ne sais qui, a marié notre fille, donc de 16 ans et demi, avec ce garçon de 22 ans. On a tout su une fois qu'elle était partie de la maison.
D'accord. Et elle est partie pour la Syrie, hein?
Et après, elle est partie effectivement pour la Syrie. Oui, oui. Et donc, ça fait depuis 3 ans maintenant qu'elle est en Syrie avec ce garçon.
Ouais. Ne bougez pas, Valérie, parce qu'il y a tellement d'appels. J'aimerais justement que vous restiez avec nous pour les écouter, vous qui avez un petit peu d'expérience sur ce sujet dramatique, puisque vous êtes présidente de Syrie Prévention Famille. Vous avez publié l'année dernière Embrigadé aux éditions des Presses de la Cité. Amine vient de m'appeler. Il a fait le 32-16, mon cher Amine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tout jeune, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant dans le Nord, et alors quand on appelle au 32-16, vous savez, les équipes du Standard me mettent une ou deux lignes sur mon ordinateur, sur mon écran, et là j'ai ma sœur de 21 ans est partie en Syrie, Amine. C'est donc ça votre histoire, hein?
Écoutez, c'est donc ça mon histoire, effectivement. Ma sœur est partie en Syrie, elle est partie il y a 2 ans. Je crois aujourd'hui qu'il ne faut pas s'en cacher. On a eu là l'occasion d'écouter le témoignage de Valérie. Valérie, avec qui je partage toute ma solidarité, ma compassion sur ce sujet qui est très douloureux. Je crois d'ailleurs que c'est super important d'avoir des familles qui puissent témoigner sur ce sujet. Il faut sortir de ce silence, le briser pour pouvoir anéantir la radicalisation, en tout cas sur le sol français. Ma sœur est partie en Syrie, elle est partie il y a 2 ans. Elle était étudiante comme moi, en droit d'ailleurs. Elle avait échoué à quelques examens universitaires, ce qui n'est pas un drame en soi. Et je pense qu'à partir de là, elle a découragé. Et dans cette mauvaise situation, elle a rencontré les mauvaises personnes, donc au mauvais moment.
Elle habitait où? Dans le nord comme vous? Elle était à Paris? Dans le sud? Où est-ce qu'elle était?
Non, ma soeur habitait chez moi. On habite à Roubaix.
À Roubaix, voilà.
Dans cette ville qui connaît déjà 12 jeunes qui sont partis faire le djihad, dont la moitié qui ne sont pas revenus parce qu'ils sont morts. Je crains d'ailleurs que ma sœur puisse tomber un jour sous ces balles, mais je considère en tout cas pour ma part qu'elle est partie certes parce qu'elle était d'une certaine façon, on pourrait dire endoctrinée, mais d'une autre façon engagée, et c'est la raison pour laquelle je nie pas cette part de responsabilité personnelle.
Est-ce que vous avez vu un glissement s'opérer? Est-ce que votre sœur était très religieuse avant de partir, ou dans sa jeunesse, dans son adolescence? Est-ce que, c'était comment?
Écoutez, ma sœur, elle a grandi dans une famille monoparentale, dans laquelle la mère jouait également le rôle du père. On est une famille nombreuse de 6 enfants. Je tiens d'ailleurs à faire un petit signe à ma mère, puisqu'elle nous écoute. Et elle a été très courageuse dans ce combat. On est une famille de 6 enfants. Aujourd'hui, sociologiquement parlant, on a tout pour être pointé du doigt, puisqu'on habite la ville la plus pauvre de France, à Roubaix. Et pourtant, on s'est toujours débrouillé comme on pouvait. Ma sœur, elle était étudiante, et puis une fois qu'elle a quitté le cursus universitaire, elle a commencé à se lancer dans la pratique du culte, de la religion, et elle a rencontré certaines personnes, des recruteurs qui agissent toujours, on sait c'est qui.
Attendez, vous savez qui en gros l'a endoctriné, pour faire court?
Exactement, oui.
C'est-à-dire que quand vous savez qui, vous pouvez mettre un nom dessus, un visage sur ces gens-là, quoi.
Je peux mettre un nom, je peux mettre un visage. Je pense qu'aujourd'hui l'enquête, elle n'est pas totalement terminée, mais en tout cas on a et depuis 2 ans on travaille sur cette enquête auprès des services de renseignement de la DGSI.
Oui.
Et aujourd'hui on sait qui opère à Roubaix, on sait qui agit.
Incroyable.
On sait comment ils opèrent.
Votre sœur, est-ce que vous avez de ses nouvelles ou pas là depuis ces derniers mois?
Oui, on a des nouvelles, et puis on communique via WhatsApp.
D'accord, donc elle est à 7 minutes en Syrie ou ailleurs?
Elle est en Syrie.
Comment? J'ai pas compris. Elle est en Syrie, oui.
Elle est actuellement en Syrie.
Et est-ce qu'elle vous dit c'est formidable, la vie que j'ai là-bas me rend heureuse, elle s'exprime sur ce sujet, elle est contente d'être là-bas?
Elle revendique en tout cas le fait d'être heureuse, d'appartenir un califat, à un État islamique. Maintenant, on n'a pas la certitude qu'elle soit heureuse, mais en tout cas, elle ne montre pas la volonté de revenir sur le territoire national.
Oui. Elle est mariée, elle a des enfants, elle est dans une maison, elle est dans une ville, dans un village. Qu'est-ce qu'elle fait? Que fait son mari? Quelle est sa vie?
Elle a déménagé 4 fois, une fois arrivée en Syrie.
Oui.
Quelle est sa vie? Je ne pourrais pas vous en dire plus, puisque moi-même je ne sais pas. Je sais qu'elle s'est mariée selon le califat islamique, selon leur rituel. Elle a eu un enfant très récemment, et puis le rôle de la femme est à distinguer, contrairement au rôle de l'homme, puisque la femme elle a au sein de l'État islamique qu'un rôle de procréation, de participer à la vie quotidienne, tandis que l'homme, il est plutôt il participe activement à la guerre.
Oui.
C'est lui qui prendra l'arme pour aller tuer le combattant de Bachar al-Assad.
Incroyable ce témoignage. Vous pouvez rester encore avec nous quelques instants, Amine, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr.
Ouais, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, si vous prenez l'émission en cours, voilà ce qui se passe. J'ai vu en avant-première un documentaire qui passe ce soir à 20h55 sur Arte. Très intéressant, hein, sur justement ceux qui en France et aussi au Danemark. Tiens, il y a l'expérience danoise qui est très intéressante. Ceux qui déradicalisent des jeunes qui sont en voie de radicalisation ou qui reviennent de Syrie d'ailleurs. Donc très intéressant. Ça m'a profondément ému et j'ai décidé sur cette base de consacrer l'émission à ce sujet. D'ailleurs, je vous pose la question, et Camille, est-ce que vous redoutez qu'un de vos proches tombe dans la radicalisation? C'est un sondage, un questionnement qu'on n'a jamais posé, donc j'attends beaucoup, moi, de ce sondage aujourd'hui, n'hésitez pas à voter. Moi, je vous donne mon opinion, j'ai des enfants qui rentrent dans l'adolescence, jusqu'à présent, c'est une inquiétude que je n'ai jamais eue et que j'ai pas tellement, j'en ai d'autres, hein. Vous savez, on redoute tous pour nos enfants, la drogue, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, je ne m'étais jamais dit, tiens, mes enfants pourraient être touchés par ce fléau qui est celui du djihad, etc. Car c'est une sociologie très diverse, Camille. Hein. J'ai vu des jeunes filles qui sont parties en Syrie, des jeunes filles très formées, qui étaient à Sciences Po en première année. J'en ai parlé. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Des jeunes femmes qui n'étaient pas musulmanes quelques mois avant de partir. Il y a même une jeune femme juive. Donc ça peut paraître quand même sacrément incongru quand on y réfléchit un peu, etc. Donc voilà la diversité sociologique, culturelle absolument incroyable de ceux ou celles qui font le choix d'aller faire ce djihad. Voilà la question pour laquelle je souhaite vous interroger, mesdames, messieurs, sur ce sujet. Camille.
On vous interroge et vous êtes nombreux à réagir et à répondre à cette question. Redoutez-vous qu'un de vos enfants, un de vos proches parte faire le djihad en Syrie? Et pour l'instant, c'est non. Comme Eric, à 85%, il vous reste encore quelques instants pour voter. Allez-y, rmc.fr et bien entendu sur Twitter, @EricBrunet.
Voilà, mesdames, messieurs, juste un petit truc. Ben oui, c'est la fête des mères dimanche. Voilà, c'est la fête des mères. On a beau traiter de sujets parfois pas très gais, dimanche, il y a quand même de la gaieté puisque c'est la fête des mères. Et on a un partenariat avec un maroquinier qui s'appelle Davids et qui va vous faire gagner et ben plein de choses, notamment des valises cabine avec ouverture spéciale pour tablette et ordinateur, une glamour box. Voilà, donc tout ça, c'est pour conserver bijoux, maman, produits de maquillage, etc. Alors, pour gagner ce pack cadeau pour la fête des mères, mesdames, messieurs, eh bien, vous envoyez RMC par SMS au 732-16. Il y a parfois des cohabitations étranges dans une émission, hein, n'est-ce pas? C'en est une, mais c'est comme ça s'appelle la radio. On se retrouve dans une seconde avec Amine, avec Valérie de Bois-Rollin et avec Dounia Bouzard, que vous connaissez, qui est anthropologue. Voilà, à tout de suite.
RMC, carrément Brunet, Éric Brunet.
Bonjour Dounia Bouzard.
Bonjour.
Beaucoup de gens votent, hein. Je fais une chose qu'on a pratiquement jamais fait. Je pose une question aux Français. Ils sont des milliers à voter, hein, sur RMC, là. Redoutez-vous qu'un de vos enfants ou que vos proches partent faire le djihad en Syrie? Et il y a quand même 15, 16, 20% de gens qui semblent redouter ça quand même, hein. C'est considérable. Ça fait un Français sur 6, sur 5. C'est une proportion considérable, hein, Dounia Bouzard.
C'est considérable, mais en même temps, je pense que le grand public se protège et pense encore que ça ne peut arriver qu'aux enfants des autres. Globalement, ceux qui sont de familles musulmanes, qui ont une histoire immigrée ou qui ont des problèmes sociaux graves. Et c'est vrai que je crois qu'on a encore du mal à comprendre que non, ça peut arriver à n'importe qui, les chiffres le montrent, hein. Vous avez des classes moyennes, et puis on le voit bien dans le film, des classes supérieures, des gens qui sont athées, catholiques, même juifs, vous l'avez souligné. Et ça a encore du mal à passer. C'est un peu embêtant que les gens ne voient pas vraiment la complexité de cet embrigadement, parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas non plus prendre les mesures pour protéger leurs adolescents. Et donc, il y a encore un travail à faire pour qu'on arrive à accepter cette réalité de cette facilité des prédateurs de maintenant, contrairement à Al-Qaïda, oui, de toucher n'importe quel jeune.
Parce que Dounia Bouzard, je rappelle, vous êtes anthropologue, vous avez fondé le Centre de prévention des dérives liées à l'islam, et vous avez publié « Ma meilleure amie s'est faite embrigader chez, oui, la Martinière il y a quelques, oui, semaines ». Oui. Dounia Bouzard, franchement, moi j'aurais jamais imaginé que des jeunes femmes ou des jeunes gens qui sont pas musulmans déjà puissent se faire embrigader et partir faire le djihad. Déjà un gamin qui est pas musulman, ça me paraît totalement conceptuel qu'il aille faire le djihad. Mais bon, et en fait, donc je me trompe puisqu'il y en a beaucoup qui sont pas musulmans. Il y a des
50,
mineurs,
presque 50%. Oui. Hein.
Et alors ce qui me paraît incroyable, c'est que des parents qui ont qui vous parlent, qui sont des parents rationnels, vous voyez bien que ce ne sont pas des parents paumés, qui ont un vrai discours, etc., vous disent, mais 48 heures avant, j'ai longuement discuté, c'était sympa avec mon enfant, c'était cool, on a refait le monde ensemble, je n'ai rien vu, et je rangeais son placard, sa chambre, etc., je n'ai rien vu. Alors ça paraît encore plus délirant, et pourtant, apparemment, c'est tellement vrai, Dounia Bouza.
Mais si vous voulez, la différence entre Al-Qaïda et Daesh, c'est que Al-Qaïda n'avait pas de territoire. Il cherchait des hommes, plutôt musulmans déjà, pour combattre. Et puis, le motif d'engagement, c'était religieux. Là, aujourd'hui, Daesh, il va adapter son idéologie à la psychologie, à l'idéal et à l'utopie de chaque jeune. C'est-à-dire qu'ils arrivent masqués parce qu'ils ont Internet, contrairement à Al-Qaïda. Donc, ils n'arrivent pas en disant « Coucou, je suis un embrigadeur de Daesh, je vais te séparer de tes parents et te faire peur pour que tu n'aies confiance en personne ». Ils arrivent, ils font parler le jeune. Le jeune va un petit peu se livrer, c'est un jeune adolescent, tout jeune à l'adolescence a des périodes de vulnérabilité, il découvre le monde, c'est toujours un peu dur, et le discours djihadiste va s'adapter au profil psychologique de chaque jeune, et c'est très bien montré dans le film de ce soir. Il va lui faire miroiter un projet de vengeance si le jeune il est un petit peu énervé, qu'il a vécu des injustices, un projet de protection. Si le jeune il s'est senti violenté pour un événement ou un autre, un accident de voiture, il va lui faire miroiter un monde utopique de justice sociale, d'un monde où il n'y aura pas de voleurs, pas violeurs, pour celui qui voulait s'engager à l'ENA, pour faire une société meilleure. Il va s'adapter à chaque jeune. Oui. Et petit à petit, finalement, le jeune va commencer à douter des adultes qui sont autour de lui. C'est pour ça qu'on voit bien dans le film de ce soir que les parents sont le premier maillon qui peut aider le jeune avant, pendant et après. Ce ne sont pas les professionnels qui déradicalisent, puisque c'est le mot à la mode, ce sont les parents. Et les professionnels ne font que mettre des mots, mettre des concepts pour faire comprendre au gouvernement la place des parents. Et pourquoi les parents sont si importants? Parce que finalement, quand on prend du recul, Daesh, il a une approche émotionnelle anxiogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont approcher avec des vidéos le jeune pour lui faire peur, pour lui faire des émotions négatives. Tout le monde te ment, on te ment sur tout, n'aie confiance en personne. Une fois qu'il est musulman, on va lui dire n'approche pas les juifs, ni les chrétiens, encore pire les athées, parce qu'ils sont jaloux, ils veulent t'empêcher de voir la vérité, ils sont tous des endormis, tes parents les premiers, ne fais plus confiance à tes parents, ne leur dis rien, ils ne peuvent pas comprendre, ils sont soit endormis, soit complices de ces sociétés secrètes qui veulent détruire le vrai islam qui détient la vérité et qui seul peut régénérer le monde. Donc effectivement, il y a une approche anxiogène. Et qu'est-ce que font les parents instinctivement? Et nous, c'est ça qu'on a traduit au gouvernement depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ont fait les parents? Les parents ont compris ça au feeling et ils ont aussi développé une approche émotionnelle envers leurs enfants, cette fois-ci pour les rassurer. Fais-moi confiance, je t'aime, je suis ta mère, je suis ton père, les adultes sont fiables, fais-nous confiance. Et rien ne peut être fait sans cette approche-là. Ouais. L'idéologie, c'est un deuxième temps.
Dounia Bouzard, j'ai entendu également dans le processus de séduction par smartphone et par téléphone, qui peut se lier parfois avec des adolescentes, notamment, qui sont draguées, entre guillemets, par Daesh. J'ai entendu aussi, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on envoyait des photos de combattants armés, séduisants, etc., avec des petits chatons pour donner une dimension humaine, attachante.
C'est plus que ça, c'est des images subliminales. Ça, c'est à la fin du processus. Ouais. Une fois qu'on a compris le profil du jeune, si on tombe sur une jeune fille qui rêve, qui avant regardait Disney par exemple, oui, et qui a envie d'un grand amour, d'un amour qui la protège, d'un amour pour toujours, là effectivement ils vont entamer ce mythe ce que j'appelle le mythe du prince barbu, qui est un motif d'embrigadement, et le petit chat Le petit chat, c'est le symbole de la protection, en fait. Hein. C'est parce qu'en islam, le lion, c'est le protecteur, donc ils ont mis des petits chats. Mais il faut bien comprendre, et c'est bizarre à dire, ces jeunes sont à la recherche de l'amour. Je sais que ça fait bizarre de dire ça devant les gens, ouais. Parce que ces jeunes vont après devenir déshumanisés, vont finalement accepter de voir tous ceux qui ne pensent pas comme eux comme des choses. Ils vont même pas les considérer comme des victimes humaines. Ils vont plus avoir de complexe pour tuer celui qui ne pense pas comme lui. Et ça, c'est la fin du processus. Au début, on leur propose une utopie qui est basée au contraire sur un nouveau lien humain, une régénération de soi, une régénération du monde. Et à la fin, on les déshumanise. Mmh. Et c'est ça qui est difficile à comprendre et qui est horrible. Et les parents vont réhumaniser leur enfant d'une façon ou d'une autre. Et ce sont, à mon avis, les proches sont les seuls à pouvoir faire ça.
Très, très vite, Dounia Bouzard, combien de Français sont partis en Syrie, vont faire le djihad? J'ai entendu 2000.
D'un ou deux milliers, ouais. Mais ce n'est pas ceux qui partent. Ceux qui partent, c'est un drame pour les parents, bien entendu, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a aussi des jeunes qui partent mentalement et qui sont encore là. Ouais. C'est-à-dire, on a des jeunes radicalisés, les parents vous disent, il est là sans être là. C'est comme un robot, il est anesthésié, il ne ressent plus rien. C'est le groupe, c'est l'identité du groupe qui a pris son identité. C'est le groupe qui pense à sa place. Et évidemment, là aussi, on va énormément travailler et apprendre aux professionnels. Moi, mon rôle, c'est de former les professionnels. Mais d'ailleurs, on voit un extrait dans le film aussi ce soir, pour essayer de remobiliser ses parents, de leur donner la force, parce que il faut rendre hommage à ses parents qui perdent leur enfant sans le perdre. C'est vraiment grâce aux parents qu'on doit le numéro vert pour les autres parents, le système de prévention, les indicateurs d'alerte, à partir de quoi on peut s'inquiéter, à partir de quoi c'est plus de l'islam, la déradicalisation. Tout ça, c'est le travail des parents.
Merci Dounia Bouzard, merci beaucoup. C'était bon de vous entendre. Bonne journée à vous. Au revoir. Bon, dans un instant, ma prochaine invitée, mais rapidement, deux choses. Un, elle parle d'un film, Dounia Bouzard, si vous avez raté le début de l'émission, c'est 20h55, ce soir, 9h05 ce soir, c'est sur Arte, et c'est un film que j'ai trouvé absolument lumineux et extraordinaire sur ceux qui travaillent au quotidien sur la déradicalisation. Voilà, deuxième chose, on a parlé d'un numéro vert. Ah, ça c'est très important, c'est un numéro vert justement dédié au signalement des personnes radicalisées. Ce numéro, le voici, 0800 00 56 96. 0800 00 56 96. Vous n'avez pas eu le temps de noter, je le redonnerai à la fin de l'émission. Et je voudrais maintenant me tourner vers Véronique Roy. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors je vous ai découvert, moi, dans les médias, il y a quelque temps. Vous êtes sur Sevran, vous Véronique, vous êtes sur Sevran et vous êtes la maman de Quentin, un jeune homme de 23 ans qui est décédé en Syrie en janvier dernier. 2016, il était parti en septembre 2014 et voilà, alors je vous ai découvert à ce moment-là, vous accusiez un peu le maire de Sevran, de votre commune, de pas avoir été très actif sur la question. Écoutez-vous. Ah, non, c'est pas prêt.
On ne m'écoute pas.
On ne vous écoute pas. Bon, pardon, est-ce que je me tourne vers Thomas Poyot, le réalisateur? C'est bon, on vous écoute.
D'accord. C'est non-assistance à citoyen en danger. Il n'a rien fait. Parce que il est dans le déni. Il est dans le déni. Mais on peut pas être dans le déni quand on arrive à 6 morts. À 6 morts dans une commune. Il fait pas de prévention, il n'écoute pas la parole des parents concernés. Donc nous, on ne se sent pas non plus protégés. On se sent abandonnés, comme on a pu avoir le sentiment d'être abandonnés aussi par le gouvernement. Et il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. On est dans une république laïque. Laïque, ça veut dire que tout le monde peut pratiquer son culte. On est bien d'accord avec ça. Et nous, on dit, ok, je n'ai pas de problème avec l'islam. Là où j'ai un problème, c'est quand c'est l'islam radical. Parce que oui, mon fils a fréquenté des radicaux. Je le sais maintenant en ayant remonté le fil de sa conversion et sa radicalisation. Oui, il a fréquenté des musulmans. Et ce sont des musulmans intégristes qui l'ont radicalisé.
Voilà, il a été victime de recruteurs. Vous savez à peu près qui ils sont. Enfin, vous imaginez savoir qui ils sont, ceux qui ont conduit votre fils vers l'intégrisme et donc vers la mort.
Oui, c'est vers la mort, c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, tout jeune qui part là-bas a vocation à mourir, c'est de la chair à canon que Daesh recrute, donc ça, il faut être très très ferme là-dessus, et il faut pas tomber dans la psychose, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas, l'espérance de vie d'un jeune assyrie est très très courte. On remonte le fil de l'histoire de notre enfant, parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, quand on vit ce qu'on vit avec un enfant qui bascule petit à petit, on ne voit pas le départ arriver. parce qu'ils procèdent aussi à ce qu'on appelle la dissimulation. Hein, c'est, on les invite à ne pas dire la vérité. Effectivement, nous, nous ne savions pas que notre enfant partait. On a su un mois après où il était et on l'a tenu hors de l'eau. Vraiment, que c'est un combat hein, qu'on a mené avec lui plus d'un an. Et bon, au final, voilà, il est mort. Et on,
vous savez, pardon de vous poser cette question. Vous savez dans quel contexte il est mort ?
Pas du tout. On n'a aucune information ni sur le lieu, ni sur la date, ni sur les circonstances. Nous n'avons bien sûr pas de certificat de décès, donc on ne peut pas faire le deuil, on n'a pas de sépulture. Là, je dois fermer son compte en banque, je ne peux pas parce que je n'ai pas de certificat de décès. Et bon voilà, toutes les familles sont malheureusement à se battre aussi avec ces réalités administratives, mais nous savons par l'enquête que nous menons, parce qu'on n'est pas tenu au courant de l'enquête judiciaire, donc nous faisons notre propre enquête, et Quentin, pour ce qui est de mon fils, hein, avait notamment un ami qui est en prison depuis novembre dernier, et qui était sous surveillance depuis début 2013. Bien sûr, nous n'en avons jamais rien su, c'est quelqu'un qui est de confession musulmane, qui s'est très radical, ça ne se voit pas de l'extérieur, hein, donc on ne se méfie pas, c'était un ami de mon fils à peu près à l'âge de 15-16 ans. Il faisait ce qu'on appelle beaucoup de prosélytisme, hein, c'est-à-dire qu'il a converti beaucoup de gens autour de lui. Certains sont partis et il a été arrêté sur le motif de recruteur et maillon ouvrier d'une chaîne donc de recrutement et de logistique pour la Syrie. Donc moi je voudrais réagir aussi à ce que disait Madame Bouzard tout à l'heure, qui dit des choses justes mais pas que, dans le sens où on parle beaucoup d'Internet, mais il faut pas surestimer le pouvoir d'Internet. Bien sûr qu'Internet est important parce que ça, si vous voulez, ça confirme une tentation, ça confirme une recherche d'images, d'idées qui peuvent après effectivement conduire au déclic. Mais la radicalisation, elle se fait pas en Syrie, elle se fait chez nous en France, parce que nos jeunes croisent des gens qui les recrutent et qui ne sont pas forcément masqués. C'est-à-dire que ça se voit pas forcément qu'ils sont, si vous voulez, radicales, bien que certains ne s'en cachent pas, mais on ne les empêche pas, si vous voulez, de vivre en France. Dans le
que,
sens
que,
où...
peuvent, que peuvent les maires, justement, puisque vous...
Eh ben, ils peuvent beaucoup.
Que peuvent les maires des communes.
Nous, effectivement, on a été un petit peu, si vous voulez, on a attaqué notre maire, entre guillemets, hein, dans une lettre qu'on avait envoyée à l'AFP, qui a fait d'ailleurs pas mal de bruit. Pourquoi ? On avait rencontré le maire début 2015, peu de temps après le départ de notre enfant, parce qu'on venait d'apprendre la mort d'un jeune à Sevran. On en était à 3 départs. On a dit que ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Au premier, c'est déjà beaucoup. Et il n'a pas pris la mesure, si vous voulez, de notre alerte. On lui a tendu la main. On lui a dit qu'il faut diffuser ce numéro vert qui existait déjà depuis le printemps 2014, qui n'était pas diffusé dans la ville. Ce numéro d'urgence que vous avez rappelé à l'antenne tout à l'heure, qui est très important, parce que moi, si je l'avais connu, ce numéro, si je l'avais vu quelque part affiché dans ma ville, ça m'aurait inquiété. Je ne me suis pas inquiétée de la conversion de mon enfant avec mon mari. On s'est inquiété de sa pratique religieuse qui devenait, si vous voulez, un peu austère et qui risquait de le marginaliser. Mais jamais, jamais nous n'avons pensé qu'il partirait faire le djihad. Mais jamais nous n'avons vu ce numéro vert dans la ville. Il n'a été diffusé qu'en mars 2016. Vous rendez compte, 2 ans après. Le jeune dont je vous parlais était sous surveillance depuis début 2013. Alors bien évidemment, ça c'est des informations, des renseignements généraux qu'on ne donne pas forcément à la population. Le maire devait être au courant. Deuxième chose, il était au courant d'une salle de prière qui, où il y avait des prêches haineux, réputé dangereux. Le maire s'est défendu en disant qu'il avait fait une information à la préfecture, mais il n'y a rien eu après. C'est-à-dire que quand c'est dangereux, qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme des serial killers. Quand il y a une menace dans une ville, on prévient la population. On dit méfiez-vous, attention. C'est comme quand il y a un danger de climatique, une inondation qui va arriver, on met en garde les gens. Attention, il va y avoir une montée des eaux. Je ne sais pas. Quand il y a un serial killer, on sait qu'il y a quelqu'un qui rôde et qu'il peut y avoir, que c'est un violeur, par exemple. On va prévenir les familles. Il n'y a rien eu de tout ça. C'est-à-dire qu'on a mis le mouchoir dessus. On n'a pas prévenu. Donc après, on dit il a fréquenté les mauvaises personnes, il ne fallait pas qu'il sorte. Mais c'est pas, le problème n'est pas dans la maison des gens.
Véronique Roy, vous pouvez rester vous aussi quelques minutes avec nous ?
Oui.
Parce qu'on va partir en pub quelques instants, une petite minute. Mais après, j'aimerais qu'on soit positif. Je reçois beaucoup de messages sur mon compte Twitter de gens qui disent je redoute, j'ai quelques craintes, mais qu'est-ce que je dois faire ? Eh ben, je vous poserai à vous, Véronique, la question, c'est qu'est-ce que je dois faire ? Déjà, je redonnerai le numéro vert, bien évidemment, qui est très important dans une minute. Camille Savotte. Hein.
Et bah oui, de plus en plus, en tout cas sur Twitter et sur rmc.fr aussi, je le rappelle. Et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez voter aussi par SMS. Redoutez-vous qu'un de vos enfants, un de vos proches se radicalise et parte faire le djihad en Syrie. Vous votez oui ou non au 6-10-71.
On va faire un tout petit tour à Roland-Garros où il se passe des choses. Rodolphe Massé.
RMC Roland-Garros 2016.
Bonjour Rodolphe.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Il y a des très gros matchs en ce moment, notamment deux rencontres qui avaient été interrompues par la nuit hier soir et qui ont repris aujourd'hui sur le court central Philippe Châtrier. Un énorme combat entre le numéro 2 mondial Andy Murray et le vétéran tchèque Radek Štěpánek, 37 ans et demi. Alors là, le match a repris où il s'était arrêté. Andy Murray a remporté le quatrième set, mais la cinquième manche est en cours et c'est le tchèque Štěpánek qui fait la course en tête et qui mène deux jeux à Andy Murray et actuellement au service. Sur le court numéro 1, le match franco-français a repris entre Julien Beneteau et Lucas Pouille. Et Julien Beneteau, qui est toujours mené 2-7 à 1 dans ce match, eh bien, il a eu des balles pour égaliser à deux manches partout, sauvé par Lucas Pouille. Beneteau est actuellement au service. Il mène 5 jeux à 3. Et puis, il y a un autre français que l'on suit, Quentin Alice, qui a remporté la première manche 6 jeux à 1 face au Coréen Chung.
Merci.
À chaque instant, donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur rmc.fr.
Allez Camille, les messages que nous recevons, moi je suis pas... J'ai peut-être tort, hein, pardon, mais je n'arrive pas à être inquiet, je n'arrive pas à imaginer qu'un de mes enfants ou qu'un de mes proches puisse, comme ça, s'enticher de cette cause djihadiste et décide un beau jour de partir en Syrie. Encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, je me trompe peut-être, hein, mais ça me semble pas être aujourd'hui un danger qui me guette. Voilà. Alors, qu'en pensent ceux qui nous écrivent, Camille ?
Alors, c'est comme Doméo, je pense, parce qu'il ne comprend pas, lui, la réaction de certains parents. Selon lui, il est du devoir des parents de contrôler drastiquement les fréquentations de leurs enfants, notamment à l'adolescence, où tous les doutes les envahissent. Il n'est pas pensable que des parents responsables ne réalisent pas de gros changements dans le comportement de leurs enfants. Logique 1 nous dit aussi, redouter qu'un proche parte faire le djihad est un aveu et une constatation de son incapacité à éduquer ses enfants ou à choisir ses fréquentations. On a Rabat aussi qui a réagi sur rmc.fr. Dounia Bouzard part du principe qu'il faut être radicalisé pour rejoindre des groupes comme Al-Qaïda ou Daesh. Là est son erreur. Jérémy nous a écrit sur Facebook pour nous expliquer que le djihad est une démarche personnelle. Si un de mes proches signifie son intention d'évoluer, alors je lui souhaite bon courage. Mais partir, faire le djihad, c'est un effet de mode pour afficher la profondeur de son engagement. Quand les fronts de guerre seront pacifiés, les esprits chagrineux continueront de se chercher un engagement, que ce soit politique, religieux, écologiste ou autre. Le djihad, au grand sens du terme, n'a pas vraiment de limite technique. Alors, redouter qu'un proche s'engage n'a de sens que si on assimile et réduit celui-ci à l'acte de guerre. Voilà.
Mais j'ai rien compris. C'est pas grave, Jérémy. C'est bien d'envoyer des messages. C'est bien que Camille les lise. C'est mieux qu'on comprenne. Moi, j'ai pas compris, mais je vais le relire tranquillement après l'émission, Jérémy, c'est promis.
RMC, carrément Brunet, Éric Brunet.
Véronique Roy, donc votre fils Quentin est parti en Syrie et il est décédé au mois de janvier dernier. Il avait 23 ans. Beaucoup de gens sont inquiets. Quels sont les signes évidents de ce qu'on pourrait appeler une radicalisation ? Ça commence comment ? Ça mûrit, ça mature comment ?
Alors, il faut pas tomber dans la caricature et bien se dire que quasiment chaque enfant a son parcours. Bien évidemment, il y a des similitudes. Moi, j'aurais été bien incapable. J'étais incapable il y a 2 ans avec mon mari quand Quentin nous a annoncé sa conversion fin 2012, oui, jusqu'à son départ septembre 2014. Nous ne voyions pas les signes. Aujourd'hui, avec le recul, on les voit. Mais quand on est dedans, on a du mal, si vous voulez, à faire la part des choses parce qu'il y a des choses qui sont visibles, il y a des choses qui sont cachées. Il faudrait que les gens se disent que c'est vrai pour un ado, c'est vrai pour un jeune adulte, hein, ce qui était le cas de mon enfant. Il y a un monsieur qui disait tout à l'heure, il faut surveiller ses enfants, c'est un devoir des parents, etc. Mais un adulte de 21 ans qui vit chez vous, nous, on surveille Quentin, mais est-ce que vous surveillez les faits et gestes de tous vos enfants ? Est-ce que vous surveillez quand il va à la faculté ? Est-ce que vous le facultez quand vous le surveillez lorsqu'il va faire ses entraînements de sport ? Est-ce que vous le surveillez quand il va à la prière? Nous, on l'a accompagné à certaines des mosquées où il allait pour voir, parce que nous ne sommes pas de souche musulmane. Donc on s'est interrogé sur comment on pratique l'islam. Je suis allée à la grande mosquée de Paris 5 mois avant le départ de Quentin. pour leur dire, est-ce que c'est normal de pratiquer comme ça? Parce qu'il avait une pratique orthodoxe. Mmh. Hein, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il nous... Il nous disait pour justifier la manière dont il voyait l'islam, etc. Donc on avait beaucoup de discussions avec lui à la maison. On ne voulait pas rompre le contact et donc du coup il n'était pas question de le condamner parce qu'il était devenu musulman. Mmh. Vous voyez, la question n'était pas là. Et il faut bien distinguer la conversion de la,
radicalisation. Alors les signes, c'est quoi
les signes par exemple, alors je vais vous dire par exemple pour mon enfant, mais ce n'est que le début, c'est-à-dire il arrête la musique. On est d'une famille de musiciens, il a arrêté la musique du jour au lendemain. Ouais. Et donc la musique, effectivement, c'est un des premiers signes parce qu'il vous dit ça éloigne de Dieu, ça c'est futile, c'est pas nécessaire, etc. Bon, il arrête la musique. C'est pas grave en soi d'arrêter la musique, ouais. Mais ça pose problème. Alors ça s'ajoute à quoi après, par exemple, il y a eu un épisode très important dans notre vie familiale. Mon mari a perdu sa maman. Et Quentin a été dans l'incapacité, quand je vous dis l'incapacité physique, c'est la preuve, hein, là du coup, du quasiment de l'envoûtement, de l'endoctrinement dont il commençait à être victime, mais qu'on voyait, si vous voulez, germer petit à petit sans penser à un départ éventuel. Et il n'a pas pu rentrer dans l'église parce que son gourou, enfin ceux que j'appelle ses gourous, hein, ses maîtres à penser qui sont en France, hein, qui sont là, qui sont pas en Syrie derrière des ordinateurs, hein, c'est un contact physique, hein, la radicalisation, ils lui ont dit c'est incompatible avec l'islam, c'est péché, parce que tu ne peux pas rentrer dans une église, c'est la Trinité, c'est blabla, etc. Il n'a pas pu rendre un hommage à sa mamie dans l'église. Mmh. Il est resté à l'extérieur, prostré, en pleurs, vous voyez, parce qu'il péchait. Mmh. Donc c'est-à-dire que ce qu'il faut montrer du doigt, bien sûr que le radicalisé, nous on en est les premières victimes, si vous voulez, on a perdu un enfant, on n'a rien demandé, nous. Mmh. Et lui, il est tombé dans un piège. Alors certes, il n'a pas réussi à s'en échapper, mais il est tombé dans un piège.
Est-ce que vous voyez aujourd'hui des choses à mettre en place pour éviter la radicalisation, enfin, à part appeler ce numéro vert
et tenter
de parler parce que vous avez fait le boulot, vous avez parlé, vous êtes même allé à la mosquée de Paris, oui, essayer de comprendre.
Mais ils m'ont pas alerté, ils m'ont dit votre fils est sur le fil. De la radicalisation, c'est un jeune converti, ignorant, c'est normal, il veut être plus royaliste que le roi, ça va lui passer. Mmh. Donc je suis revenue à la maison avec des versets et des sourates à lire avec lui, et ça l'a pas empêché de partir. Mmh. Et quand j'ai fait le numéro vert, bon, qui a bien évolué depuis en octobre simplement, parce que même le commissariat de ma ville, même la DGSI ne m'avait pas dit que ce numéro existait, donc c'est pour vous dire comment c'était grave à l'époque et que on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, on m'a dit. Quand j'ai fait ce numéro vert, on m'a posé un questionnaire pour évaluer son degré de radicalisation. On m'a dit, il était parti depuis 3 semaines, il est radicalisé à 70%, et ça ne l'a pas empêché de partir. Mmh. Parce qu'il faut que les gens sachent aussi, sans tomber dans la psychose, qu'un jeune qui part ne part pas forcément, je dis bien forcément, parce qu'il y a toutes sortes de cas de djihadistes, pour faire la guerre. Mmh. Souvent, ce sont des motivations humanitaires, comme le disait d'ailleurs Madame Bover tout à l'heure, des fois l'envie d'un monde meilleur. Mmh. Alors on va se servir effectivement de cet idéal qui est en soi dans chaque jeune. Hein, je veux dire, certains ont fait la résistance. On sait dans l'histoire aussi que pourquoi des jeunes Français ont combattu dans les troupes nazies. Il faut se poser la question si ça s'est arrivé dans l'histoire à d'autres moments. Donc on ne sait pas pourquoi certains jeunes, bon voilà, sont. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont plus fragile ou plus vulnérable. Ce qu'il y a de vulnérable, c'est le fait qu'il soit jeune. Ouais. Un jeune est plus influençable qu'un adulte.
Ouais.
Voilà.
Et puis
mais
là
Quentin
aussi
n'était pas un voyou.
Et puis là, oui.
Vous voyez
et
ce que
puis,
je veux dire.
Oui,
il y a
j'entends.
Toutes
et puis,
sortes de jeunes.
Oui, oui. Et puis il y a des exaltations aussi. Il y a des exaltations qu'on n'a pas à 40 ans, qu'on a à 17, à 20, 22 ans. Des exaltations passionnelles, même romantiques. J'utilise le mot parce qu'il y a beaucoup de romantisme aussi dans cette espèce de folie qui consiste à partir se battre. Parfois, et on échappe à des raisonnements rationnels. Merci beaucoup, Véronique Roy. Merci à vous. Vous avez compris, mesdames, messieurs, qu'on est sur des sujets éminemment complexes, beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Hein. Et le seul conseil que j'ai envie de vous dire, dans cette émission, on a entendu beaucoup de témoignages. On n'a pas été capable, il faut être humble dans la vie. À la radio, il faut être humble. On n'a pas été capable de répondre à la question. Mais alors, que faire lorsqu'on voit les prémices d'une radicalisation dans son environnement débuter, démarrer? Eh bien, je vais vous donner une réponse, moi. Si jamais vous voyez autour de vous les prémices d'une radicalisation, un de vos enfants, un de vos proches, un seul réflexe, ce numéro vert qui est désormais bien armé pour répondre à ces questions. Le 0800 00 56 96. Je répète, le 0800 00 56 96. Camille, je veux connaître, s'il te plaît, le résultat du Brunet-Métrie aujourd'hui.
Eh bien, vous êtes finalement 80% à estimer que c'est loin de vous, tout ça. 80% à ne pas redouter que votre enfant se radicalise et parte faire le djihad en Syrie.
Oui.
Comme toi.
Bien sûr, Camille. Mais 20% des Français qui votent et qui disent « j'ai peur qu'un de mes proches ou qu'un de mes enfants parte faire le djihad », pardon, c'est un chiffre énorme. Dans un instant, les infos et juste après Brigitte Lahaye.
Écoutez Carrément Brunet, 24h sur 24, en podcast sur rmc.fr.